Bonjour, vous êtes sur RDC, Radio Diffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, des notes, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Pierre Souris, c'est lui qui a accepté de nous donner ses notes. Auditrice, auditeur, bonjour, c'est la rentrée. Aujourd'hui débute la troisième saison de cette émission Donnez-nous vos notes, que j'ai la joie d'animer, la troisième année déjà. Je veux vous dire combien je suis touché par les nombreux témoignages que vous envoyez pour dire votre satisfaction à l'écoute de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5. Je ne doute pas que vous apprécierez de recevoir les notes que Pierre Souris va aujourd'hui nous donner, que dis-je, nous offrir. Bonjour Pierre Souris.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, jeudi 26 septembre 2024. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de RDC. Bonjour Jean-Marc. Merci à toi aussi pour la technique que tu sais toujours déployer au bénéfice de toutes celles et de tous ceux qui sont à l'écoute. Et merci également du soutien que tu apportes à l'animateur que je suis. Alors donc aujourd'hui, c'est Pierre Souris qui se prête au jeu. C'est lui qui va nous dévoiler son parcours, son choix d'entrer dans l'univers de la musique, sa formation, ses rencontres avec d'autres, ses envies culturelles, artistiques, musicales. Le tout sera sans doute teinté de l'expression d'un partage musical et humain. Pierre va nous dire comment il vit avec la musique, mais aussi comment la musique opère sur lui, ne serait-ce qu'à travers l'influence qu'elle a sur sa personne, sur son entourage. Pierre va nous guider vers sa compréhension de la musique, sans doute celle qui permet l'écoute de soi, de l'autre, l'écoute des autres. Pierre Souris, vous êtes prêt?
Tout à fait.
Alors Pierre Souris, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes. C'est sur RDC. Pierre Souris, tout de suite, une première question. Qui êtes-vous?
Déjà, merci pour l'invitation. Bah, écoutez, je suis musicien dans la Haute-Vienne et je suis musicien donc en tant qu'enseignant, en tant que chef d'orchestre. Je dirige donc des orchestres et puis des ateliers vocaux. Je pratique aussi un instrument qui s'appelle le saxhorne alto et j'ai aussi une activité de compositeur et d'arrangeur de musique.
Alors si on reprend un petit peu tout ça, si vous me permettez, puis on va essayer d'approfondir chacun de vos domaines d'activité dans le champ de la musique et de l'éducation musicale et de l'enseignement de la musique. Vous êtes enseignant, vous dites, au CRC, c'est ça? Un CRC de Panazol?
CRC, ça signifie Conservatoire à rayonnement communal de Panazol. Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a d'autres CR qui ne sont pas forcément...
Il y a des CRD, des conservatoires à rayonnement départementaux, et des CRR, des conservatoires à rayonnement régionaux. En Haute-Vienne, par exemple, il y a un CRR, c'est le conservatoire à rayonnement régional de Limoges, et deux établissements classés également donc à Panazol, là où je travaille, le CRC, et également à Saint-Junien, tout proche d'ici.
Donc c'est pour mailler le territoire peut-être un peu, c'est
voilà,
ça?
Tout à fait.
Même si Panazol, c'est assez proche de Limoges en Haute-Vienne, c'est dans la banlieue de Limoges?
C'est vraiment la banlieue immédiate hein, de Limoges.
Voilà. Et là, vous enseignez quel domaine dans ce CRC de Panazol?
Alors moi, j'enseigne une discipline qui est assez généraliste, qui touche tout le public qui s'inscrit au conservatoire. Je suis le professeur de formation musicale, du coup, au conservatoire de
Panazol. Alors stop,
de
formation musicale, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors formation musicale, c'est quelque chose d'extrêmement large. Ouais. En fait, les enfants ou les adultes, tout dépend l'âge où ils commencent la musique, pratiquent cette discipline. C'est vraiment une ouverture à la musique de manière globale. Ils sont musiciens en cours, ils écoutent, ils chantent, ils font de la percussion corporelle. Voilà, c'est vraiment une approche très globale de la musique et globale aussi par le répertoire qui va être abordé.
De répertoire instrumental, chanté.
Répertoire instrumental, chanté, à travers le temps, à travers la géographie. Il n'y a pas de limitation particulière dans le répertoire qui peut être approprié par les élèves dans ces cours.
Est-ce que c'est exagéré de dire que la formation musicale, c'est aussi pour donner envie de continuer ou pas ?
Toutes les disciplines qui sont enseignées dans le conservatoire, les professeurs font en sorte de donner l'envie de continuer, d'aller toujours plus loin et d'avoir une pratique, ne serait-ce, même si la pratique plus tard ne sera pas professionnelle, avoir au moins une pratique amateur éclairée quand ces jeunes apprentis deviendront des jeunes adultes.
Et se faire plaisir en découvrant la musique.
Avant tout, la musique, c'est un plaisir.
Bien sûr, et puis le partage qu'elle peut permettre, bien sûr. Est-ce que les enseignants d'un conservatoire, celui de Panazol, ils travaillent ensemble ou c'est le prof de piano d'un côté, le prof de violon de l'autre côté, où il y a des moments qui regroupent les profs et les élèves ?
Alors les professeurs travaillent vraiment sur des projets communs. L'idée, c'est vraiment de décloisonner à la fois les disciplines instrumentales, mais même les spécialités. Moi, j'ai le plaisir de travailler, par exemple, avec la professeure de danse. On allie les classes d'orchestre, les différentes spécialités. Les choses sont croisées autour de projets, souvent thématiques pour le conservatoire.
Alors, si vous permettez, moi, je vais adresser un grand bonjour à tous les collègues, à vos collègues du conservatoire. Et puis, un grand merci pour leur envie de développer des projets communs au meilleur bénéfice des élèves qui leur sont conseillés. Il y a beaucoup d'élèves à Panazol à peu près ?
C'est 400 élèves, partagés à peu près un quart en danse et les trois quarts en musique.
En musique, voilà. D'accord. Et puis alors, on m'a dit que vous dirigiez aussi une chorale par exemple, ou plusieurs, mais il y en a une qui s'appelle, je crois, la Ballade de Solignac.
Tout à fait.
J'ai entendu ça quelque part. Pardon.
Tout à fait. Donc c'est une chorale qui est à Solignac. Solignac, c'est une commune qui est à peu près à 15 km de Limoges. C'est un ensemble vocal de 35 choristes.
Donc on reste dans la Haute-Vienne, hein, c'est ça ?
On reste dans la Haute-Vienne.
Ouais. Ouais. Et comment elle est organisée, cette chorale ? Comment elle fonctionne ?
Alors,
35 choristes, vous disiez, pardon ?
Ouais, 35 choristes, c'est ça, divisé en 3 ou 4 pupitres.
Ah, stop, moi, je vous arrête. Pupitre, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, vous savez que les voix humaines, on peut les enregistrer en fonction de leur tessiture. Les voix aiguës sont les voix de femmes, les voix de soprane et les voix d'alto. Les voix masculines, les voix de ténor un peu plus aiguës et les voix de basse. Donc, on retrouve ces quatre pupitres au sein de la balade.
Et c'est ce qu'on appelle, je crois, un chœur mixte.
Un chœur mixte.
Parce qu'il y a des hommes et des femmes, c'est ça ? Il y a d'autres chœurs que les chœurs mixtes ?
Je crois qu'on peut avoir des chœurs d'enfants, on peut avoir des chœurs de femmes. Il y en a un d'ailleurs en Haute-Vienne, à Saint-Thierrier, qui est assez réputé. Il y a également un chœur d'hommes. Voilà. L'autre Saint-Thierrier.
L'autre, oui, parce que vous êtes passé tout à l'heure pas loin d'un Saint-Thierriette,
voilà,
comme on dit en Charente.
Saint-Thierrier
en Haute-Vienne, Saint-Thierrier-la-Perche, je crois.
C'est ça.
Et Saint-Thierriex sur Charente. Mais bon, peut-être qu'il y a des chœurs à jumeler entre celui de Saint-Thierriex et celui de Saint-Thierrier, on pourra en reparler. Qu'est-ce qui différencie les pupitres d'une chorale ? Vous dites c'est la hauteur particulièrement, c'est
ouais,
ça ?
Oui, la hauteur.
Alors, et à l'intérieur des voix de femmes, il peut y avoir différentes hauteurs aussi ?
Oui, bien sûr, la partie de soprane qui sera plutôt plus aiguë et la partie un peu plus grave des voix d'alto. Et très souvent, la partie de soprane, on va lui attribuer la mélodie, qui est souvent plus facile à mémoriser. Donc souvent, les chanteuses altistes vont pouvoir sans doute se plaindre assez souvent. Car elles ont des parties un peu plus complexes à mémoriser, mais elles y arrivent quand même très très bien.
Mais on peut imaginer aussi des arrangements, on parlera de votre activité d'arrangeur peut-être tout à l'heure si vous en avez une, qui peuvent donner la mélodie à d'autres que les
Bien sûr,
les
oui, sopranos. La mélodie n'est pas le monopole des sopranes, mais en majorité c'est souvent les sopranos.
Et alors le répertoire de cette chorale, il est ouvert, il est varié, il est...
Alors c'est un répertoire qui est centré sur la chanson française, des années, elle est du tout le XXe siècle jusqu'à nos jours.
Et, dans le domaine de la variété, vous voulez dire ?
Oui, dans la variété, d'accord. C'est ça, la chanson française. Et également, on a un petit fil rouge, c'est le folklore limousin qu'on aime vraiment mettre en avant à travers des mélodies que je me permets d'harmoniser et d'arranger. Voilà.
Alors, on reparlera tout à l'heure ce que ça veut dire harmoniser et arranger. Le folklore du Limousin, c'est-à-dire que c'est la Haute-Vienne, mais c'est plus large que ça ?
Oui, ça va. Alors, souvent, c'est un folklore qui est ici même du pied des Monnaies d'hier. Il y a des petits villages là-bas où il y avait un musicien célèbre, peut-être qu'on en reparlera, qui s'appelait Léon Perra. Et Léon Perra, c'était une mémoire vivante du folklore du Limousin par son violon. C'était un violoneux. Il était également chanteur.
Un
violoneux.
Qu'est-ce que c'est un violoneux ?
Alors, c'est un musicien, c'est un violoniste également, mais qui a une technique peut-être moins scolaire que certains musiciens, avec une sonorité particulière, peut-être plus de liberté dans la technique, qui est vraiment propre à ce répertoire.
Alors le répertoire, justement, c'est vous qui le choisissez en tant que chef, ou c'est les choristes, c'est, comment ça se passe?
Alors moi je dirige cette chorale depuis une quinzaine d'années. Quand je suis arrivé, je me suis inspiré bien sûr des propositions des choristes, et au fur et à mesure du temps, mes propositions ne se sont pas imposées, elles se mêlent toujours en discussion avec celles des choristes, mais voilà, c'est vraiment l'orientation qu'on a pris actuelle, la chanson française et le folklore, voilà.
D'accord, mais je vais aller plus loin, s'il vous plaît, dans ma question, le titre, par exemple. Je sais que vous chantez la balade néerlandaise, le chasseur ou la montagne. Ou c'est vous qui choisissez ça?
Alors, je fais des propositions et les choristes font également des propositions en fin d'année. Je reçois de la part des choristes une petite liste de propositions et moi je fais ma sélection dans cette propre liste pour pouvoir harmoniser, arranger ces chants.
En fonction d'une progression pour la chorale, etc., dans la durée de la saison, comme on va dire, saison associative, mais aussi peut-être d'une saison à l'autre.
Voilà, on pense souvent le programme sur du long terme, en fait.
Ouais. Alors, Ambalaba, qu'est-ce que c'est ça? Ambalaba, c'est une chanson de Maxime Le Forestier, je crois.
Ouais,
et c'est peut-être ça qu'on va écouter, interpréter par la chorale la balade de Solignac, c'est ça?
Oui.
Alors, avec un petit bonjour, un petit coucou pour les choristes. Les choristes, écoutez bien, c'est vous qui chantez Ambalaba. Pierre, on entend des voix, mais on n'entend pas que des voix, je crois.
Et oui, on n'entend pas que des voix. À l'occasion de cet enregistrement, on avait deux invités, deux amis avec qui on travaille régulièrement. Ce sont des gens qui habitent en Creuse depuis peu. Il s'agit d'Aviva Timonier, qui est une chanteuse, professeure de chant, nouvellement recrutée au Conservatoire de Creuse, et de son conjoint Hervé Lecam, qui est également guitariste. Voilà. Donc nous faisons souvent des projets en partageant les musiciens.
Alors là, ils viennent de Creuse, c'est-à-dire qu'ils acceptent de franchir la frontière. On reste dans le Limousin quand même, finalement.
Oui, complètement, ouais. Même complètement ouvert.
Alors bon, Ambalaba, qu'est-ce que c'est? C'est une chanson, tiens, que je vais qualifier de légère ou de ludique, avec des paroles qui décrivent une relation joyeuse, insouciante, associée à une forme d'amour profond et une admiration pour sa partenaire. Et tout au long de la chanson, l'interprète insiste sur sa volonté de donner à sa belle tout ce dont elle a besoin, avec l'espoir d'une joie partagée à trouver les choses les plus simples de la vie. Ambalaba met en valeur une relation amoureuse, on pourrait dire ça. Pierre, quel superbe message pour lancer les choix musicaux que vous nous réservez ce matin. Merci beaucoup.
Merci.
On parlait de la montagne tout à l'heure, oui. Ça nous amène dans les monts du Limousin, forcément, et dans la musique de là-bas. Je crois que vous avez d'autres titres, comme La bergère et le chasseur, par exemple.
Oui, tout à fait.
C'est un chant du Limousin, ça?
Voilà, c'est un chant du Limousin. On retrouve souvent les mêmes thématiques, hein, les thématiques de l'amour qui reviennent très souvent. Et donc c'est des chants du Limousin, effectivement, qui viennent de la Haute-Vienne et pour beaucoup, comme je vous le disais tout à l'heure, de la Corrèze, voilà. Et de ce chanteur et musicien, Léon Peyra.
La Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, voilà. Sont des cousins, tout ça?
Oui, c'est la même culture musicale.
Frères, ouais. Et il paraît, on m'a dit que, avec modération, mais les choristes aimaient bien de temps en temps trinquer à la musique, ça va bien ça. Par exemple, parce que peut-être qu'ils chantent « Buvons mes chers amis ».
Je crois, oui.
Qu'est-ce que c'est ça, « Buvons mes chers amis » ?
C'est encore une chanson limousine qui nous incite à la convivialité, en fait. La musique, c'est égal à la convivialité, donc on peut prolonger les concerts en chantant cette chanson.
Et si on écoute le début des paroles, « Amis buvons, mes chers amis buvons, mais n'y perdons pas la raison ». Donc on a déjà la modération indiquée, bien sûr. Quel bel appel à la sagesse, n'est-ce pas, Pierre?
Tout à fait.
Comment il est construit, ce chant? On écoute d'abord, puis vous nous en parlez tout à l'heure. Allez, on écoute « Buvons, mes chers amis », c'est toujours la balade de Solignac, c'est ça?
Tout à fait.
Oh.
Alors je crois qu'on entend plusieurs voix, mais pas forcément toutes ensemble dès le début, c'est ça ?
C'est ça, on entend dès le début la partie de soprane qui présente vraiment la partition, le chant original, et les autres voix que vous entendez par la suite, donc de manière progressive, d'abord le pupitre d'alti, puis après les ténors et les basses vont présenter une harmonisation, c'est-à-dire on vient enrichir la mélodie avec des notes qui viennent se superposer normalement de manière la plus harmonieuse possible.
Comment ça normalement ? À coup sûr, vous voulez dire ?
À coup sûr, on espère, voilà.
En tout cas, ça donne plus de corps, tiens, je vais dire, voilà, progressivement à cette chanson. Puis ça entretient peut-être l'attention de celui ou de celle qui écoute, des auditeurs finalement. Il y a des nouveautés qui arrivent dans le déroulement de la chanson qui peuvent parfois créer des surprises.
C'est le principe de la répétition en musique. Il ne faut pas que ce soit une répétition juste pour la répétition. Il faut à chaque fois qu'il y ait quelque chose de nouveau.
Et les choristes, parfois, ils vont se promener. Donc, il y a une chanson, je crois, qui s'appelle « Tout en me promenant », c'est ça ?
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un début, il y a une introduction, cette fois pour une partie instrumentale.
Voilà, on a la chance à Solignac, dans la chorale La Balade, c'est qu'on a des instrumentistes. Ah. Et notamment, nous avons Christian, qui fait alternativement soit du violon, soit de l'alto. Et on le met à contribution.
Violon alto, vous voulez dire.
Violon, c'est ça, ouais, violon ou alto.
C'était pour éviter la confusion avec le pupitre.
L'instrument alto. Et souvent, on le met à contribution, donc soit pour proposer l'introduction, ou un petit passage central, ou un accompagnement supplémentaire. Et c'est le cas, je crois, dans Tout en me promenant, où il nous propose une petite introduction.
Et puis, il y a des richesses de cette chanson dans le domaine du rythme. La mesure qui change, le tempo qui va varier aussi, etc. On écoute ?
Oui.
Allez, on va se promener, c'est Tout en me promenant par La Balade de Sognac. Et c'est Christian, donc.
C'est Christian.
Violon ou l'alto, je ne sais pas.
Je crois que c'était à l'alto, sur cet enregistrement.
Allez. Traditionnelle. Alors finalement, c'est celle du territoire, vous le disiez tout à l'heure, hein, qui correspond quelque part à la province historique du Limousin.
Oui.
Peut-être davantage à l'ancienne région administrative du même nom. Mmh. Et on voit encore peut-être plus justement à une ère culturelle qui est fondée sur la zone de locution de l'Occitan Limousin. C'est ça ?
Tout à fait.
Donc on est à la frontière entre l'Oïlanie et l'Occitanie.
C'est ça.
Ouais. On peut alors approximativement, faire correspondre à la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne, ainsi qu'à quelques marches des départements voisins. La frontière n'est pas forcément très, très nettement écrite, dessinée. La musique limousine est une des variantes de la musique occitane, hein, c'est ce que je viens de rappeler. Elle présente quelques caractéristiques communes avec des musiques de tradition d'Oïl. On est vraiment à la rencontre, et notamment avec la musique du Berry ou du Poitou. Au-delà de plusieurs spécificités instrumentales, on peut entendre la chabrette dans certaines
traditions.
Voilà,
c'est
une musique,
ouais,
c'est un instrument avant dans lequel on souffle. Hein. La cabrette, qu'on appelle parfois ailleurs. On a des spécificités rythmiques, socioculturelles, le rôle des migrations. Quand les gens changent de région, ils emmènent leur culture, leur musique, leurs habitudes. Et puis, le répertoire chanté fait que on parle de tradition proprement limousine et le répertoire chanté renvoie au répertoire de tradition orale, parce que la musique en général traditionnelle n'était pas écrite. Donc elle se transmettait de celui qui chantait ou de celle qui chantait à celui ou celle qui écoutait, avec peut-être des transformations selon les régions et les voyages. Le terme de musique traditionnelle, et ça renvoie aux traditions populaires, recueillies au XIXe siècle et au XXe siècle, mais aussi et par extension aux pratiques d'interprétation ou de réinterprétation ou de recréation observées à l'époque et aujourd'hui encore, et qui viennent d'une filiation avec des traditions dont je parlais tout à l'heure. Les traditions musicales limousines sont indissociables de traditions de danse. On parle de la bourrée, évidemment, et puis la sautière, qui sont les plus spécifiques. Est-ce que la balade de Solinac, Pierre, présente des chansons chorégraphiées ou bien est-ce qu'elle se produit parfois avec des danseurs ?
On n'a pas eu ce genre de projet, mais on est vraiment ouvert à ce type de projet qui pourrait mêler les spécialités avec plaisir. Voilà.
Lier les arts et la culture,
et bien sûr,
provoquer les rencontres.
Les modes d'expression, les liens, c'est important.
Alors pour la saison qui s'ouvre, peut-être que vous allez faire dans la dentelle.
C'est ça, un petit peu des Innocents, la chanson La Dentelle.
D'accord.
Voilà, La Dentelle, c'était une chanson des Innocents, une chanson, je crois qu'il y aura peut-être une trentaine d'années, du groupe de rock français Les Innocents.
Et puis Boris Vian, le cinématographe, c'est
voilà,
ça.
Voilà, qu'on va remettre au programme.
C'est une chanson ?
C'est une chanson de Boris Vian.
Avec la caractéristique, on va dire, Boris Vian sur l'humour, les clins d'œil.
Sur les jeux de mots, sur les clins d'œil, sur le jazz. Hein, sa musique est très proche du jazz, très influencée par le jazz.
Terry Moïse.
Oui,
c'est ça.
Alors c'est une chanteuse franco-américaine, je crois, qui malheureusement nous a quitté il y a une dizaine d'années et qui a fait de très belles chansons qui étaient connues dans les années 90, notamment les poèmes de Michel.
Et c'est ça que vous allez travailler.
Voilà, donc j'ai fait l'arrangement cet été et donc on a commencé à le travailler, on a passé une répétition et demie dessus partiellement et donc on espère pouvoir le programmer cette année tout au long de notre saison.
On parle beaucoup, dans le domaine de la chanson française de variété, de Zao de Sagazon, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors vous allez aussi vous intéresser à son répertoire ?
Ben également cet été, j'ai commis un arrangement sur sa célèbre chanson, qui était, je crois, mis en avant par une célèbre publicité d'une marque de voiture. Et donc c'est la Symphonie des Éclairs que nous allons nous approprier cette année avec la balade.
Ben je suis sûr que ça va faire des éclairs. Avec Stéphane sur RDC pour Donnez-nous vos notes. Voilà, ça c'était le coup de chapeau, tiens, je vais dire, à la balade de Solignac. Nouveau coup de chapeau avec l'harmonie municipale de Limoges. Alors, l'harmonie municipale, l'harmonie est un mot qu'on emploie souvent, mais qu'est-ce que c'est musicalement une harmonie ?
Alors, c'est vrai que le mot harmonie a plusieurs sens, et là, dans ce cas, il s'agit d'un orchestre. Un orchestre qui va regrouper principalement les familles des vents et les familles des percussions.
Alors, excusez-moi, la famille des vents ?
Famille des vents qu'on peut même elle-même recouper en famille des cuivres, donc pour citer des instruments.
Alors les vents, c'est on souffle dedans, hein,
on
c'est
souffle
ça
dedans, voilà, c'est
enfin, il y a de l'air qui passe.
Il y a de l'air qui passe, voilà. Et en général, c'est le bonhomme qui souffle dedans qui provoque ce vent.
Et puis il y a d'autres instruments comme l'accordéon ou l'orgue, c'est pas le bonhomme comme vous dites, ou voilà, la bonne femme d'ailleurs, qui souffle dedans, mais il y a de l'air qui passe pour voilà, produire un son et mettre en vibration. Alors pareil, comme instrument avant, comme exemple, ou peut-être ceux de l'harmonie, qu'est-ce qu'on rencontre ?
Alors dans les cuivres, trompette, cordes, trombone, tuba. Chez les bois, on va avoir des instruments qui ne sont pas forcément en bois, mais qui appartiennent à la famille des bois. La clarinette, qui est en bois, elle, le saxophone, la flûte, le basson. Et je crois avoir fait le tour.
Ouais, je crois que la différence entre bois et cuivre, c'est pas tellement la matière dont l'instrument
non,
est fait, c'est la chose, le bec ou l'embouchure avec, dans lequel
voilà,
on souffle.
C'est vraiment la technique d'émission du son qui classifie.
Quand on a un bec, le saxophone a un bec, et donc c'est un bois.
Voilà.
C'est en bois. La trompette, elle a autre chose qu'un bec, une embouchure qui est en métal, en cuivre, et c'est ça qui fait la différence, je crois, entre cuivre et bois. Alors, cet orchestre, il a cette harmonie, c'est un orchestre. Cet orchestre, il a un répertoire. Et ce répertoire, c'est le chef qui choisit.
Alors le répertoire, il est décidé souvent comme une sorte de commission musicale. Alors il y a le chef, il a un chef adjoint avec qui il peut discuter. Il y a aussi un bureau, il y a aussi l'écoute des musiciens pour orienter le choix. Mais très souvent, on décide d'une thématique qui sera proposée tout au long de la saison. Et là, en l'occurrence, cette année, on a une thématique qui s'appuie sur le Moyen-Âge, les musiques du Moyen-Âge et le fantastique.
Et il y a des œuvres originales qui ont été interprétées ou qui sont interprétées par cette harmonie ?
Alors, ce qui est bien, c'est que toutes les harmonies peuvent jouer un répertoire qui est très très vaste, dont des œuvres originales, hein, des musiques spécifiquement composées pour orchestre d'harmonie, voilà. Mais également, on peut avoir des transcriptions de musique classique, des transcriptions de musique de film, des transcriptions de variété.
Sébastien Rabillet, qui c'est ça ?
Alors, c'est un compositeur nantais, je crois, qui doit avoir une
carrière. Alain, on sort du Limousin.
Oui, mais on est ouvert. Nous sommes très ouverts.
Très bien.
Voilà, donc qui a composé une œuvre originale pour orchestre d'harmonie, qui a été lauréat d'un concours d'harmonie, d'un concours de composition, et cette œuvre s'appelle Cerf-volant. Donc c'est une œuvre très originale que nous sommes appropriée il y a à peu près 6-7 ans avec l'harmonie. Nous avons mis une année pour travailler cette œuvre. Et j'ai eu le plaisir de travailler, enfin en tout cas d'envoyer les pistes de travail au compositeur. Donc j'ai pu avoir un dialogue constant avec lui pour pouvoir progresser sur le travail et sur l'appropriation de cette
œuvre. Des orchestres qui sont ouverts à la rencontre, mais des compositeurs qui sont ouverts aussi à l'échange, y compris sur ce qu'ils ont écrit eux-mêmes, ouais, quand c'est interprété par d'autres.
C'est vraiment l'intérêt des compositeurs vivants, de travailler avec les musiciens pour promouvoir le mieux possible leur musique.
Et alors, il y a un autre compositeur qui travaille pour cette harmonie qui s'appelle Pierre Souris.
Oui.
Hein, c'est vous, hein. C'est
tout
ça.
À fait.
Et puis, l'orchestre sur une colline, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le titre d'une de vos compositions.
En 2018, l'harmonie municipale de Limoges a fêté ses 70 ans et le bureau a décidé de me passer une commande d'une œuvre qui mettra en avant, alors, parce que l'harmonie c'est un grand orchestre, mais c'est aussi une école de musique avec ses ensembles. Donc on m'a demandé d'écrire une petite musique pour chacune des composantes de l'harmonie. Donc,
j'aime bien le petite musique, j'aime bien le mot petite.
Une musique pour chacune des composantes. Voilà. Et en réfléchissant un petit peu, moi qui avais un attrait pour le folklore limousin, je crois qu'on l'a compris dans les premières minutes.
Allez, quand on habite en Haute-Vienne, vous êtes né en Haute-Vienne?
Je suis né à Limoges.
Oh, c'est un pur jus, pure souche.
Voilà, donc j'ai décidé de composer en fait une variation sur un thème qui était joué encore par Léon Perra au violon.
Alors une variation sur un thème, excusez-moi, mais moi la musique j'y connais pas grand chose. Alors thème,
un thème c'est une autre manière de dire le mot mélodie.
D'accord, voilà. Un air associé à une idée, une
des paroles éventuellement,
une mélodie. Et variation.
Et variation c'est le fait de présenter la même mélodie mais avec, je vais me répéter, mais avec des variations. Ça peut être un changement de rythme, un changement de vitesse, un changement de couleur. La mélodie qui était triste devient
d'autres
joyeuse.
D'autres instruments peut-être.
D'autres instruments, voilà.
Qui jouent, voilà. Bon, alors si on allait sur la colline avec l'harmonie municipale de Limoges.
Tout à fait. Donc ça, c'est la dernière variation pour le grand orchestre de l'harmonie municipale de Limoges.
Le grand orchestre, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde, c'est ça?
Il y a tout le monde. En tout cas, il y a les plus confirmés, on va dire.
Okay. L'orchestre sur une colline, c'est une composition de Pierre Souris par l'harmonie municipale de Limoges. Composition, mais je crois aussi qu'il y a des transcriptions, par exemple Apollo 13 ou E.T. ou Water Music de Handel ou My Favorite Things, c'est-à-dire des réécritures, c'est ça une transcription?
C'est ça, là, en fait les orchestres d'harmonie peuvent jouer ce qu'on appelle un répertoire très populaire qui va des musiques de films, des chansons françaises. Donc c'est vraiment le but des orchestres d'harmonie, en fait, c'est jouer tout type de musique, notamment des musiques de films, et en fonction des thématiques que nous choisissons chaque année.
Mais alors toutes ces musiques ne sont pas forcément dans tous les concerts. Il faut faire des choix, parce que sinon le concert peut être très long.
Mais il faut faire des choix, il faut essayer de faire des choix éclectiques, que tout le monde s'y retrouve, autant les musiciens que les auditeurs puissent retrouver à chaque fois leur compte à l'écoute d'un concert, avec un programme, on espère, le plus varié possible.
Cette harmonie jouerait-elle aussi des musiques du domaine du jazz?
L'harmonie de Limoges est fan du jazz. On a notamment pu participer avec plaisir au festival Éclat d'Émail, festival Éclat d'Émail à Limoges.
Comment vous dites le festival?
Éclat d'Émail.
Festival
de jazz. Voilà.
Festival de jazz. La porcelaine, Éclat d'Émail, forcément.
Et voilà, un jeu de mots. Voilà, un festival qui tourne très bien sur Limoges depuis plusieurs années. Et donc, on s'approprie chaque année environ 2-3 standards, 2-3 arrangements de standards du jazz.
Et puis, il y en a un qui s'appelle Four de Miles Davis, c'est ça?
C'est ça.
Alors, c'est un standard de jazz qui a été enregistré et arrangé, je crois, pour la première fois par un trompettiste qui s'appelle Miles Davis, quand même, et qui a été publié sur son album Miles Davis Quartet. Donc ça veut dire qu'au départ, ils sont quatre. Et c'est devenu un orchestre d'harmonie. L'œuvre est construite selon la forme bien connue des musiciens A, B, A, C, ici sur 32 mesures. Ça veut dire que A, B, A, C, il y a une partie A, on va dire, qui est interprétée, une partie B, retour à la partie A et à la partie C qui est conclusive, alors que la partie B était suspensive, elle appelait une suite, c'est ça ?
C'est ça.
La composition de ce morceau est officiellement attribuée à Miles Davis. Et lui, il a commencé la trompette à 13 ans. Vous avez commencé à jouer de la musique à quel âge ?
Moi, j'ai commencé un peu plus tôt, mais à 10 ans, ce qui n'est pas non plus très très tôt.
Cependant, il se dit que cette œuvre aurait pu être composée par quelqu'un d'autre, puis achetée par Miles Davis. Un saxophoniste de jazz américain, Eddie Cleanhead, c'est son surnom, Vinson, a, en son temps, revendiqué la paternité de l'œuvre. Alors, Pierre, vous saviez ça, que comme certains écrivains, des musiciens pourraient payer des personnes qui travaillaient à leur place, mais sans signer de leur nom?
Et bien là, vous me l'apprenez aujourd'hui pour cette pièce.
Les nègres, comme on dit, en musique, ça pourrait exister aussi.
C'est vrai.
Mais rien n'a été prouvé concernant Four, qui reste donc attribué à Miles Davis, et dont nous allons écouter une transcription pour et par la monnaie municipale de Limoges, sous la direction de notre invité du jour, Pierre Souris, dans Donnez-nous vos notes, 93.4, 92.5 sur RDC. Pierre, on a parlé de transcription, on a parlé d'arrangement. Il y a une différence entre les deux, entre transcription et arrangement, ou c'est grosso modo la même chose ?
C'est assez proche. Un arrangement, en fait, c'est qu'on va partir d'une nomenclature particulière, donc une pièce pour piano et l'orchestrer pour un orchestre d'harmonie ou pour un orchestre symphonique. Transcription, ça peut partir d'une formation un peu plus large, comme un orchestre symphonique, et on va dire transplanter les notes vers un orchestre d'harmonie, vers un autre orchestre.
Ah, une réécriture.
Une réécriture.
Ouais, transcription, hein, c'est ça. Si on prend la définition en transcription, en coupant le mot en deux parties. Alors Pierre, alors auditrice, auditeur, je vous propose un exemple de transcription ou d'arrangement. Vous donnerez votre avis, Pierre. Mais je crois que ce que je vous propose là, c'est un bon point de rencontre et un croisement entre vos activités musicales. Tout le monde a entendu parler de Pirates des Caraïbes. Et voici l'interprétation par Jared Halley. Écoutez bien parce que c'est surprenant. Chacune et chacun aura reconnu cet extrait de la bande orchestre de Pirates des Caraïbes. Alors dans l'extrait que nous venons d'écouter, tout est fait à la voix, avec quelques percussions, mais des percussions corporelles. C'est étonnant, je trouve. C'est magnifique, à mon avis. Je ne sais pas, Pierre, ce que vous en pensez.
Très joli.
C'est vocal et on a l'impression d'entendre un véritable orchestre. Un orchestre vocal, tiens, serais-je tenté de dire. Jared Haley est coutumier de ce type de réalisation et c'est lui que nous venons d'entendre. Il fait tout lui-même et tout seul. C'est un principe d'enregistrement en multipiste, je vais le qualifier comme ça, proche du re-recording, et c'est ce qui lui permet ce type de prouesse. Notons que le principe est utilisé depuis assez longtemps, par exemple par les Double Six, les Double Six. En fait, le nom de ce groupe de six chanteurs vient du re-recording qui leur permettait, si je puis dire, d'être 12 en lien avec les 12 parties d'un brass band, par exemple. Alors, comment est organisée l'harmonie municipale de Limoges? Vous l'avez dit, c'est plusieurs pupitres, plusieurs instrumentistes. C'est une structure qui comprend beaucoup de monde, je crois.
Alors, c'est une structure associative, déjà, qui a 120 adhérents.
Quand même.
120 adhérents, oui, quand même. Donc, comme je vous le disais, il y a une école de musique.
Associée à
voilà, c'est tout un pack complet, en fait. Il y a vraiment l'école de musique avec des cours de formation musicale, des cours d'instruments, hein, spécifiques des instruments de l'orchestre d'harmonie, donc les vents et les percussions, et des petits ensembles pédagogiques. Donc, on a des orchestres en fonction des niveaux pour les deux... Pour les enfants qui sont, ou les adultes, hein, qui sont en deuxième ou troisième année, on a des orchestres qu'on appelle des orchestres juniors ou des orchestres cadets. On a des orchestres aussi spécifiques, un ensemble de clarinettes, un ensemble de cuivres. Et on a, on va dire, le plus gros ensemble, c'est le grand orchestre, voilà, qui concerne les grands élèves de l'école de musique ou des musiciens extérieurs. Donc ça va une génération des ados jusqu'à notre trompettiste le plus âgé, il a bientôt 90 ans. Voilà.
La musique, ça conserve.
Ça conserve et surtout intergénérationnel. C'est
absolument
une des forces.
Ça, voilà. C'est fantastique.
Une des forces de la musique.
Le plus jeune de l'orchestre ou la plus jeune, c'est quoi, 20
Alors,
ans
dans l'école, dans l'harmonie, dans l'association même, le plus jeune a 5 ans, mais dans le grand orchestre, le plus jeune, on a recruté un jeune bassoniste qui a 12 ans, je crois.
Alors, bravo et merci à lui. Et puis un petit
Bienvenue
coucou et un salut à tous les musiciens de cette
Avec
harmonie,
plaisir.
Bien sûr. On passe d'un orchestre à l'autre parce que vous dirigez aussi un autre orchestre dans le département de la Haute-Vienne où vous résidez, où vous travaillez, c'est ça?
Oui, un orchestre tout fraîchement créé depuis le mois de mars dernier. Il s'agit d'un orchestre qu'on intitule l'orchestre départemental, mais qui est affilié à la CMF. CMF, c'est la Confédération musicale de France. C'est un groupement qui a différents échelons, qui a un échelon national, un échelon régional, un échelon départemental. Et au niveau de l'échelon départemental, on s'est dit, dans les départements d'à côté, il y a des orchestres départementaux qui existent. Pourquoi est-ce qu'on ne le créerait pas en Haute-Vienne? Donc, chose faite depuis mars dernier, avec déjà deux concerts à notre actif.
Alors, ça va être un concurrent de l'harmonie municipale de Limoges? Ou c'est un complément?
On n'est pas sur le même registre. D'ailleurs, il y a quand même des musiciens communs entre l'harmonie municipale de Limoges et l'orchestre départemental. On n'est pas sur le même registre. Le niveau d'exigence de l'orchestre départemental est un peu plus élevé que celui qu'on peut avoir dans un orchestre plus associatif, parce qu'au sein de cet orchestre départemental, on a donc des bons amateurs qui sont issus des sociétés musicales, hein, des harmonies, des élèves de deuxième cycle, de troisième cycle, et également des professeurs qui sont motivés, qui viennent bénévolement pour renforcer, compléter les pupitres, les rangs de l'orchestre.
Mais c'est un orchestre, vous dites, mais c'est un orchestre d'harmonie?
C'est un orchestre d'harmonie, effectivement.
On reste avec les vents et
voilà,
les percussions.
On retrouve comme dans l'orchestre, on n'a pas spécifié dans l'appellation. Alors certains orchestres départementaux s'appellent orchestre d'harmonie départementaux. Nous, ils s'appellent simplement orchestre départemental. Et on retrouve effectivement les mêmes instruments que dans l'orchestre, que dans l'harmonie municipale de Limoges.
Alors on a salué la balade de Solignac, on a salué l'harmonie municipale de Limoges. On va saluer évidemment les membres de l'orchestre
avec
départemental
plaisir.
CMF 87, je crois.
C'est ça.
CMF de Haute-Vienne. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Pierre, savez-vous que dans l'émission Donnez-nous vos notes sur RDC 92.5, 93.4, on joue? Le jeu, il est pour toutes les auditrices, pour tous les auditeurs, bien sûr. Il s'agit de répondre au plus vite à la question que je vais poser dans quelques instants. Pour gagner, dès la question posée, auditrice, auditeur, il suffit de donner la réponse à Jean-Marc. C'est lui qui attend vos appels au standard de RDC et c'est le 05 45 95 09 87. Le 05 45 95 09 87. Et voici la question. Pierre, s'il vous plaît, un silence total. Dans quel département de la Nouvelle-Aquitaine, Pierre Souris, invité du jour de l'émission Donnez-nous vos notes, dirige-t-il des ensembles musicaux? Attention, top départ, c'est parti. Dans quel département de la Nouvelle-Aquitaine, Pierre Souris, invité du jour de l'émission Donnez-nous vos notes, dirige-t-il des ensembles musicaux? Sous-entendu, instrumentaux ou vocaux, bien sûr. Auditrices, auditeurs, précipitez-vous sur vos téléphones car seule la première personne qui donne la bonne réponse a gagné ou va gagner. Qu'est-ce qu'on gagne ? Alors c'est très original parce que c'est sur proposition de Pierre Souris, je le remercie vraiment. On gagne un moment de pratique musicale avec Pierre Souris. Ça pourrait être par exemple l'accompagnement au piano d'une chanson. Ça pourrait être jouer en duo, ça pourrait être profiter d'un moment de formation musicale, à une leçon de musique, découvrir ce que c'est qu'une leçon de musique, une initiation, une découverte d'un cuivre, un instrument donc avant de la famille des cuivres, la réalisation d'un montage sonore, que sais-je encore. Et cerise sur le gâteau, deux invitations VIP à un concert de chaque ensemble dirigé par Pierre, selon le calendrier évidemment, qui pourra être transmis au lauréat ou à la lauréate. Merci beaucoup Pierre, parce que c'est très rare qu'on ait autant de cadeaux proposés par un invité. Je crois même avec que c'est plaisir. La première fois. Donc vraiment, ça vaut le coup. Auditrices, auditeurs, précipitez-vous, 05 45 95 09 87. Dans quel département Pierre Souris dirige-t-il des ensembles musicaux ? C'est la question du jour. Pierre, nous allons parler des ensembles que vous dirigez dans un département voisin de la Charente. Je vais jeter que c'est la Haute-Vienne. Évoquons maintenant un autre volet de votre activité musicale, parce que Pierre est un homme à multiples facettes, c'est ce que vous aurez sans doute déjà compris, chères auditrices, chers auditeurs. Nous avons tout à l'heure entendu l'extrait d'une de ses compositions pour un ensemble, mais il a aussi écrit des compositions, des arrangements musicaux, des transcriptions pour chorale, pour orchestre, etc. Mais alors composer, Pierre, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on compose ?
C'est une question très 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 large. Ça va être très difficile d'y répondre. Composer, c'est un mélange d'idées spontanées et puis d'un travail plus artisanal, on va dire, sur ces idées spontanées, un travail un peu plus de découpage, de répétition. C'est très compliqué comme question. Composer, qu'est-ce que c'est ? C'est inventer des sons et en fonction des demandes.
Et des arrangements de sons.
Des arrangements de sons, voilà, donc il y a aussi le côté arrangement musical, donc là on part de musiques qui sont déjà existantes, composées, mais c'est créer du neuf en fait pour des instruments spécifiques, ça peut être pour un orchestre, ça peut être pour un ensemble plus petit.
Et alors composer, c'est votre envie à vous ou c'est quelqu'un qui vous le demande ? Je crois que vous avez parlé tout à l'heure d'une commande.
Alors moi composer, c'est une passion depuis très 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 longtemps, mais souvent composer, ça se fait en partenariat avec des musiciens, notamment actuellement avec un guitariste pour lequel j'écris une pièce en trois parties, voilà, à sa demande.
La pièce s'appelle comment ?
La pièce s'appelle Éperdiadème, alors c'est un nom provisoire, ce sera sans doute Éperdiadème suite. Une pièce en trois mouvements et pour trois guitares.
Qu'est-ce que c'est Éperdiadème ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors l'Éperdiadème, c'est une petite araignée qu'on peut retrouver dans nos jardins. On en a par chez moi, je pense qu'on peut en trouver également en Charente.
Alors,
il y a des chances, mais c'est une très jolie araignée qui a une jolie petite décoration sur son dos et sur son ventre et qui a une fâcheuse habitude assez maniaque, mais en même temps très poétique, de tisser une toile extrêmement, extrêmement symétrique.
Alors voici la toile que Pierre a tissée pour un trio de guitare, dont Denis Pasquet. Denis Pasquet, qui c'est ?
Alors Denis Pasquet, c'est un ami avant toute chose, et c'est un collègue qui travaille, c'est le professeur de guitare au conservatoire de Limoges, voilà, avec qui je travaille assez régulièrement.
Alors, Éperdiadème, un extrait pour et par Denis Pasquet avec
d'autres ? Voilà, pour trois guitares du coup, mais c'est Denis Pasquet. On parlait tout à l'heure de re-recording, de multipiste, donc Denis Pasquet a travaillé les trois voix et on les a superposées lors d'un travail de mixage.
Bis repetita, tris repetita. Thank you. Alors, quand vous transmettez, Pierre, une composition comme celle-ci à un instrumentiste, quel qu'il soit, Denis Pasquier ou d'autres, il y a un dialogue qui s'instaure entre lui et vous ou...
Alors, la guitare, c'est un instrument assez spécifique, c'est un instrument pour lequel c'est très très difficile d'écrire. Le piano, ça va être un peu plus clair. La guitare, ben, est composée avec six guitares et on peut pas jouer n'importe quelle note ensemble. Donc moi, j'ai travaillé vraiment en proximité avec Denis pour pouvoir élaborer cette pièce. Mais en plus de tout ça, je me suis élaboré un faux manche de guitare pour pouvoir voir vraiment ce qui était techniquement possible. C'est qu'un guitariste, comme un pianiste, il peut produire plusieurs sons de manière simultanée, mais pas n'importe quel son. Si on peut mettre deux notes ensemble qui sont trop éloignées sur le manche, techniquement, le guitariste ne pourra pas.
C'est vraiment techniquement, oui.
C'est vraiment techniquement, voilà.
Forcément limité par la réalité humaine.
Voilà, mais il y a quand même, malgré tout, à l'intérieur de ces contraintes, il y a beaucoup de liberté, malgré tout, beaucoup de choses qui sont possibles. Mmh.
Donc ça se fait pas en 5 minutes, tout ça?
Non, il faut y passer du temps.
Parce que la particularité de l'éperdiadème, l'animal, c'est le tissage de toile très grande par rapport à sa propre taille. Elles peuvent atteindre 1 mètre ou plus avec des fils particulièrement solides qui craquent sèchement. C'est un bruit de perles. Finalement, on pourrait mettre une percussion de temps en temps dans votre composition, pourquoi pas, lorsque les fils rompent. La toile est refaite tous les jours. Ça se fait pas en 5 minutes, non. Et puis l'éper ne répare pas sa toile, elle la recommence tous les matins. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, c'est un peu le travail d'un composition, ou bien d'un compositeur, pardon, ou bien c'est une allusion à Pénélope, qui tissait la nuit, non, qui tissait le jour, et détissait la nuit pour repousser une échéance qu'elle ne souhaitait pas. Et puis c'est une évocation à l'activité sans cesse renouvelée du musicien et du compositeur. Pierre, seriez-vous quelque part une éperdiadème? Mystère. Alors, comment elle est construite, cette œuvre? C'est plusieurs extraits, plusieurs parties, plusieurs morceaux?
Alors là, on vient d'écouter le troisième mouvement que j'ai composé en premier. En fait, j'ai composé cette pièce. Je ne fais pas toujours comme ça, mais de manière inversée. J'ai commencé par le troisième mouvement qu'on vient d'entendre. Et ce troisième mouvement, il se veut évoquer la capture de la proie, de l'araignée. Le deuxième mouvement qu'on a enregistré cet été avec Denis, alors qu'on enregistre de manière très amateur, évoque l'attente de l'araignée une fois le tissage fait. Et le premier mouvement, qui est en cours de composition, mais je pense avoir fini avant Noël, il va évoquer
un beau cadeau de Noël pour tout.
Oui, il va évoquer le tissage de la toile. Ce sera une forme de prélude qui va présenter un peu les gammes, les notes exploitées dans le reste des autres mouvements. Et c'est comme un tissage en fait des gammes qui vont être exploitées dans les deux autres mouvements, une forme de prélude.
On va encore écouter une de vos compositions, Pierre. Il s'agit de Cap's Dance, je le prononce comme ça, je ne sais pas comment...
Je ne ferai pas mieux.
Ah bon, merci.
C'est très bien.
Donc on a un lien avec la danse là encore.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on va écouter, dans l'extrait qu'on va écouter?
Alors c'est encore un travail multipiste, donc là ce qu'on va entendre, c'est pas un travail enregistré en direct avec des vrais musiciens, c'est encore un travail ce qu'on peut appeler une maquette. Il s'agit d'un projet que j'ai eu avec mon ami et collègue Maël Bousquet, qui est clarinettiste et professeur de clarinette sur le département où je vis. Et ça remonte au Covid, où on a voulu faire un travail multipiste, comme j'ai pu faire également avec Denis. Les gens ne pouvaient pas se voir, par contre, on pouvait s'enregistrer des fichiers sonores. Et l'idée, c'était de composer une musique en superposant plusieurs fichiers sonores.
C'est la technique qui venait à l'aide des musiciens qui ne pouvaient plus se rencontrer.
Voilà, et ça a donné des idées après, par la suite, pour continuer sur cette technique-là de multipiste. Donc, c'est un projet qui est sur du long terme, il n'y a pas eu de concert encore. L'idée, c'est de mêler à la fois les sons de la clarinette de Maël, les sons du saxon en alto de mon instrument, et des bandes-sons que je réalise qui peuvent utiliser des percussions ou des sons enregistrés. Et le titre Cap Dance, c'est un hommage à un compositeur que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Steve Reich. Alors, Cap, il porte des casquettes depuis une vingtaine d'années, donc... J'ai trouvé un titre peut-être un peu facilement, mais voilà, ça sera en trois mouvements et je crois qu'on va écouter le troisième mouvement de cet hommage à Steve Reich.
Alors le voici, Cap's Dance, composition de Pierre Souris, hommage à Steve Reich. Thank you. Alors Pierre, on vient d'entendre à plusieurs reprises la musique que vous dirigez, la musique que vous faites jouer ou chanter à d'autres, mais vous êtes aussi instrumentiste. Et de quel instrument vous allez nous parler ?
Alors, j'essaye de pratiquer un instrument qui n'est pas forcément très connu, il s'agit du saxhorn alto. C'est un petit tuba. Les tubas, c'est vraiment une famille instrumentale qui est très très vaste, dans laquelle il y a également la famille du saxhorn. Saxhorn, ça va du plus gros saxhorn de contrebasse jusqu'au plus petit, c'est le saxhorn alto. Il s'agit de mon instrument.
Donc c'est ça, le gros, c'est celui qui joue le note le plus grave, qui voilà. peut en tout cas, et à l'opposé, on a le...
C'est ça, plus l'instrument est petit,
les notes, et plus
il fait des sons aigus.
Le saxhorn, je crois qu'on lui donne un autre nom.
Alors il y a un nom argotique, c'est la pichotte.
Ouais. C'est un camarade que les musiciens, associent à une personne bon enfant. Il faut quand même le savoir. Pour des raisons de caractère, de timbre, il ne joue pas en général au premier plan. En général. C'est un instrument le plus souvent réservé à l'accompagnement et il possède un son délicieux. Son pavillon est dirigé vers le haut, sa tessiture est médium grave, mais dans la famille c'est le plus aigu, et il n'est donc pas très à l'aise dans les sons suraigus. C'est un peu difficile, paraît-il. Le saxhorn alto, c'est une véritable et puissante source d'harmonie. Il agit comme un liant entre tous les instruments de la section. Alors c'est ce que Pierre va sans doute nous prouver maintenant en jouant en direct quelques notes de saxhorn alto.
Alors je vais essayer de faire au mieux, mais je m'excuse par avance auprès des auditeurs s'il y a des petits couacs.
Mais non, pas du tout. Eh bien Pierre, merci beaucoup. C'est la première fois que sur les ondes de RDC en entend du saxhorn, celui-ci en particulier, le saxhorn alto. Bravo, vraiment. Saxhorn, ça me fait penser à Adolphe Sax, il y a un lien.
Et oui, je crois que c'est l'inventeur du saxophone également, ce monsieur.
Et puis le saxhorn, c'est lui qui l'a inventé aussi, hein,
oui,
c'est ça.
Au 19e
siècle. Et un jour, il parlait avec un de ses élèves et il a dit « Bon, chipote pas, j'ai un peu raté la fabrication de ce bugle. » Il voulait faire un bugle au départ, mais il marche très bien en fait. La pichotte, hein, c'est le nom qu'on lui donne en argot, c'est le saxhorn alto, en mi bémol, c'est ça?
Oui, en mi bémol.
Il peut y avoir plusieurs...
Alors il y a le saxhorn baryton pardon, qui va être en si bémol, donc 5 notes plus bas. Saxhorn basse, 5 notes encore plus bas. Voilà, on progresse par ce qu'on appelle par quinte ou par octave.
Ouais. Et alors il paraît, les mauvaises langues disent que le saxhorn c'est un instrument de musique qui ne s'assume pas vraiment. La preuve, comment on appelle une personne qui joue de la pichotte? Ben personne ne sait. Donc ne cherchez pas. De plus, on ne peut vraiment faire entrer l'instrument dans une catégorie parce que on dirait un petit saxhorn baryton ou bien un bugle tenu à la verticale. C'est vraiment où est-ce qu'il est. Sa tessiture est en mi bémol comme celle du saxophone, parenté. L'instrument se joue avec des partitions écrites pour corps, parfois transposées pour être dans sa tonalité. Et puis... La partie à jouer est souvent la même que celle du trombone. Donc c'est encore une raison pour ne pas s'affirmer, paraît-il. Ce sont les Anglais qui en sont les plus friands et ils l'appellent, eux, tenor horn.
Tout à fait.
Donc il faut là aussi traverser les frontières pour pouvoir aller vers d'autres instruments, oui.
Alors c'est un instrument, effectivement, dans les orchestres d'harmonie qui a les partitions de corps, comme vous venez de le dire, mais on le retrouve fréquemment dans le brass band qui est anglais, qui est également hollandais, mais le brass band qui se développe beaucoup en France, il y en a notamment en Charente. Il y a un nouveau brass band en Charente. Quelques amis jouent dedans. Il y a un nouveau
brass band. Le BBC, je crois. Hein,
je
le
crois
brass
que c'est
band
ça.
De Charente,
voilà,
ouais.
Voilà. Il y a également un brass band qui a été créé. J'ai le plaisir d'en faire partie depuis l'an dernier en Corrèze. Donc c'est le brass band du Carnix, brass band du Limousin, qui est centré autour de Brive et autour de Tulle. Et donc dans ces ensembles, les brass bands, mais le saxhorn est vraiment au cœur. Voilà, c'est vraiment la famille de saxhorn qui est au cœur de cet orchestre. Donc enfin un orchestre dans lequel le saxhorn, la pichotte, trouve toute sa place.
Et le saxhorn, on le trouve dans le brass band notamment ?
Oui, dans le brass band, c'est ça.
Et puis on le trouve dans d'autres ensembles ?
Alors, il n'est pas dans la nomenclature des orchestres d'harmonie, mais de plus en plus de gens qui pratiquent le saxhorn prennent la place des cornistes.
Donc c'est encore la guerre entre les musiciens.
La guerre joyeuse
entre les musiciens. Oui, bien sûr, en toute amitié, en toute complémentarité. Bon, même si je vous ai un peu, allez, je vais dire provoqué, Pierre, le saxophone est un très bel instrument, et encore merci pour votre interprétation.
De Donnez-nous vos notes, c'est avec Stéphane sur RDC.
C'est sur RDC 93.4 et 92.5 pour la région de Saintes. Pierre Souris, notre invité aujourd'hui dans Donnez-nous vos notes. Pour parvenir à faire tout ça, il faut quand même une formation. Alors comment on en arrive là? Comment vous en êtes arrivé là? Parlez-nous de votre parcours musical.
Alors déjà, à la base, il faut avoir la motivation de pratiquer la musique. J'ai eu le plaisir de commencer la musique plutôt tardivement par rapport à la moyenne des enfants actuellement, vers 10-11 ans. Et donc j'ai commencé mon apprentissage musical dans une école de musique communale à Saint-Léonard-de-Noblat. À côté de Limoges.
En Haudienne et toujours à côté de Limoges.
C'est ça, dans le pays de Raymond Poulidor. Et après, j'ai poursuivi mes études.
Mais vous n'étiez pas numéro 2, vous? Non. Poulidor était le deuxième, vous étiez un, vous, forcément.
Ça dépend. Et donc, j'ai pu poursuivre après au sein du conservatoire de Limoges mes études variées, instrumentales, de direction ou de comment dire, de technique musicale, comme la direction.
Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui vous revient? Une anecdote? Quelque chose?
Dans mon apprentissage musical? Ouais, peut-être mes premières écoutes avant de pratiquer le saxophone, en tout cas la famille des cuivres. J'étais encore incertain dans ma première année, et puis j'ai pu assister, je devais avoir 9 ans, 10 ans, à une audition musicale, comme les écoles de musique savent très bien enregistrer, dans lequel j'ai entendu un ensemble de cuivres et j'étais émerveillé. Et depuis là, le choix a été fait, en tout cas vers le saxophone, en tout cas vers la famille des cuivres.
Et vous avez passé par le tuba aussi?
Je suis passé par le tuba, voilà. Après, le saxhorn, la pichotte était un petit tuba, mais effectivement, j'ai fait du plus gros tuba. Oui.
On est dans la dans le cousinage.
C'est ça, la même famille.
Vous avez aussi une pratique chorale ou vous êtes seulement chef, si je peux dire, seulement chef de chœur? Vous êtes choriste aussi?
Alors, je ne suis pas choriste, mais je l'ai été dans mon apprentissage de musicien, dans les études, dans un conservatoire. On est vraiment amené à chanter, notamment dans les cours de formation musicale. Et j'ai chanté dans ce qu'on appelait des ateliers cantates, où le programme était plutôt centré sur des créations contemporaines et de la musique baroque, de Purcell notamment.
Et alors de là, comment est-ce qu'on a envie de devenir chef de chœur ou chef d'orchestre? Ça s'apprend ou c'est comme ça?
Alors c'est une question complexe, comment est-ce qu'on compose? L'envie est là, des fois
les
l'envie...
Les musiciens sont des gens complexes.
Oui, ce sont des gens complexes, effectivement. L'envie est là, mais en fait, le fait de diriger un ensemble... C'est un peu comme jouer devant un hyper piano. On peut mettre plusieurs sons ensemble, mais on peut mettre surtout plusieurs gens ensemble. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, faire travailler un collectif et donner l'envie aux gens de travailler ensemble.
Et donc c'est leur transmettre ce que vous voulez ou c'est autre chose? Les faire aller vers le mieux qu'ils peuvent?
Moi je crois que diriger un ensemble ou une chorale, c'est pas être autoritaire, c'est pas imposer ses idées, mais c'est convaincre. L'idée, c'est vraiment convaincre. On convainc des gens qu'on a en face. Ça va changer en fonction des musiciens ou des chanteurs qu'on aura en face de nous. Voilà. Tout est histoire de relations humaines. On a toujours une idée. Quand on dirige une œuvre musicale, on a toujours une idée. On a étudié l'œuvre. On a un schéma musical, mais les musiciens qu'on a en face de nous sont toujours différents. Donc, on construit avec eux, en fait, un programme
diriger
musical.
Diriger une chorale ou un orchestre, pour vous, c'est la même chose ou pas?
Il y a des similitudes, ne serait-ce que dans la technique. Hein. Pour faire démarrer un orchestre, on doit respirer avec lui. La chorale, c'est la même pratique. Alors, la différence technique chez les choristes, c'est que la plupart du temps, peu ne lisent la musique, en fait. Donc le travail avec les chorales se fait par mémorisation. Hein. La plupart du temps, par mémorisation. Quelques choristes savent lire la musique, mais c'est une minorité. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on leur demande. On leur demande juste d'avoir une bonne mémoire. Alors qu'avec un orchestre, même un orchestre amateur, les musiciens lisent la musique. Donc il y a quand même un travail de mémorisation, mais le gros du travail se fait de la part des musiciens par déchiffrage. Ils connaissent leur solfège, ils savent décrypter les partitions, donc l'approche est différente. Mais la battue, on va dire, technique du chef a des similitudes, notamment ce qui est au centre du chef, c'est faire partir un ensemble, la respiration.
Et alors faire partir la battue, ça veut dire battre la mesure par exemple, ou ouais, donner les départs, ou les arrêts, etc. Et puis vous dirigez avec baguette ou sans baguette?
Souvent sans baguette, mais je me mets de plus en plus avec un petit crayon dans le doigt. Je pense que c'est peut-être pour prendre des notes très très rapidement, mais voilà.
Et puis vous avez aussi étudié ce que vous avez intitulé les disciplines d'érudition.
Voilà, tout à fait.
L'analyse, l'écriture, l'orchestration, etc. Pourquoi on les appelle comme ça, ces disciplines, vous savez?
Alors l'explication du mot, je ne vais pas l'avoir, mais en tout cas l'érudition musicale, moi j'invite à tous les apprentis musiciens à rentrer dans le moteur de la musique, en tout cas à faire ces techniques d'érudition, c'est-à-dire c'est analyser une partition, c'est savoir l'écouter, savoir la relever, comment, comprendre comment est-ce qu'elle est construite cette partition, et ça permet d'avoir une approche musicale quand on est interprète beaucoup plus riche, avec du recul sur une partition.
Et donc tout ça vous permet avec les chorales peut-être, vous dirigez plusieurs chorales?
Non, je dirige uniquement la chorale de la balade.
Uniquement, mais enfin c'est déjà beaucoup. Pour avoir eu le plaisir de les entendre, je certifie que c'est un très beau résultat musical, très bien et vocal. Ça permet de diriger, avec ou sans baguette, avec ou sans crayon, des prestations. Alors la chorale, la balade, elle fait une dizaine de concerts par an ?
Un petit peu moins, on est sur 7-8 concerts par an, en fonction des saisons.
Et les concerts pour la balade ou pour l'harmonie ou pour l'orchestre départemental, c'est à Limoges, c'est dans le département de la Haute-Vienne où vous résidez et travaillez, ou c'est au-delà?
Alors on joue déjà sur la commune où chaque ensemble réside, donc Limoges, on a plaisir à jouer dans les salles municipales, les salles culturelles municipales. La chorale, la balade de Solignac, nous avons plaisir à chanter dans la salle des fêtes de Solignac. Et à ces occasions, bien sûr, on invite toujours des ensembles amis. Mais on a aussi plaisir à se déplacer, à voyager dans d'autres contrées, d'autres communes du département, ou voire d'autres départements.
Et d'autres pays?
La chorale La Balade a été en Belgique en 2021, oui. Parce qu'il y a une ville, Stavelot, qui est une ville jumelée avec Solignac. Donc on a eu le plaisir de faire partie du comité de jumelage, il y a de ça quelques années.
L'harmonie, elle se produit une dizaine de fois par an?
C'est ça, dans différentes salles de spectacle de la ville de Limoges, mmh. En invitant des ensembles, et également dans des communes autour de Limoges.
Et l'orchestre, lui, il s'est produit deux, trois fois, vous disiez, l'orchestre départemental, mais la perspective, c'est aussi une dizaine peut-être?
Voilà, c'est à peu près le nombre de concerts qu'on aimerait faire. Et là, par contre, il n'a pas de commune. Il est attaché au département, mais pas à une commune spécifique. Donc on a vocation à se promener dans le département et montrer notre programme musical.
Est-ce que la balade de Solignac se produit avec des ensembles instrumentaux?
Oui, ça s'est déjà produit et j'espère que ça va se reproduire. Il y avait un ensemble de clarinettes qui existait sur Limoges, donc on a fait quelques concerts communs. Également un ensemble d'accordéon qui s'appelle AML, avec lequel on a produit quelques concerts, et on ne s'interdit pas de reproduire cette chose à l'avenir.
Alors là, on est sur les prestations, c'est-à-dire les aboutissements, mais pour en arriver là, qu'on soit choriste ou instrumentiste, j'imagine qu'il faut des répétitions individuelles, collectives. Comment ça se passe pour la chorale, par exemple, la balade de Solignac? Les gens travaillent tout seuls, travaillent en répétition collective?
Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a un travail collectif, effectivement, qui est hebdomadaire, en général en période scolaire, donc nous faisons à peu près 30-35 répétitions dans l'année, de manière hebdomadaire. Et les choristes reçoivent aussi des pistes de travail, voix par voix, pour pouvoir mémoriser leur voix, comme je vous le disais tout à l'heure. Vraiment, le travail avec les chorales se fait beaucoup sur la mémorisation, donc il est bien que les choristes aient une trace musicale de leur voix, la voix d'alto pour les altis, etc., pour pouvoir travailler un peu plus sereinement leur partie chez eux, et se retrouver plus à l'aise quand on fait un travail collectif, en groupe.
Pour l'orchestre départemental, il y a une grosse répétition, c'est ça, de temps en temps.
C'est ça, c'est le fonctionnement. On compte vraiment sur le niveau des musiciens et sur leur investissement. Donc ils viennent en répétition, ils ont vraiment travaillé leur partition à eux. L'idée, c'est d'avoir à faire le moins de mise en place possible. La mise en place a été faite individuellement par chaque musicien parce qu'ils ont le niveau. Et on va répéter tous les mois ou tous les deux mois, avec un calendrier qui est déjà fixé, avec à peu près 6, 7, 8 répétitions dans l'année. Voilà, on compte vraiment sur les compétences de ces musiciens pour faire moins de répétitions, mais des répétitions très efficaces.
Et l'harmonie répète une fois par semaine, plus quelques stages?
Voilà, donc l'harmonie, c'est un peu comme la chorale, hein, c'est des répétitions hebdomadaires, en général en période scolaire. Ouais. Et il nous arrive de faire des stages dans lesquels on peut faire ce qui s'appelle un travail de pupitre. C'est-à-dire qu'on va couper l'orchestre en deux, en trois, les saxophones vont travailler avec les saxophones, les trompettes avec les trompettes, ou on coupe simplement l'orchestre en deux, les bois avec les bois, les cuivres avec les cuivres.
Et tout ça fait ce que vous disiez tout à l'heure, des ensembles que vous dirigez. Mais il y a aussi forcément des musiques que vous avez aimées, qui vous ont influencé, qui ont contribué à faire de vous le musicien que vous êtes devenu, et vous parlez souvent d'influence, avec des influences dans différentes époques, dans différents styles, notamment ce que je vais appeler influence, que vous appelez même une influence baroque.
Oui.
Alors baroque, c'est une époque de la musique?
baroque, voilà, c'est une époque de la musique qui est assez grande, hein, qui dure 150 ans, dans lesquels on peut compter des grands compositeurs comme Vivaldi pour les plus connus, comme Jean-Sébastien Bach, Jean-Philippe Rameau. Mais moi, la période sur ces 150 ans qui me plaît, qui m'attrait particulièrement, c'est plutôt la fin de l'ère baroque avec des compositeurs comme Jean-Sébastien Bach, où on est vraiment au summum de ce qu'on appelle le contrepoint en musique.
Ah, le contrepoint, ça veut dire ?
Alors, le contrepoint, c'est l'art de combiner ensemble plusieurs mélodies qui sont superposées. Et l'assemblage de ces mélodies va créer quelque chose de très poétique, de somptueux, de très complexe, mais de très agréable à l'écoute et très énergique.
Et ça se traduit notamment dans le morceau que vous avez choisi de nous faire écouter ce matin, Concerto Brandebourgeois numéro 2. BWV, c'est les critères de classement des œuvres de Bach, 1047-1 de Jean-Sébastien Bach, Concerto Brandebourgeois, en tout cas un des concertos brandebourgeois. Alors le qualificatif brandebourgeois, finalement, c'est pas dû à Bach du tout, c'est dû à un musicologue qui s'appelait Philippe Spitta. C'est un biographe, un des biographes de Bach, qui, suivant l'usage germanique, fait référence à celui à qui étaient dédiés ces concertos. Il s'agit du margrave Christian-Louis de Brandebourg-Schwedt, si je prends son nom complet. Comment sont nés ces concertos ? Bach se rend un jour à Berlin pour acquérir un grand clavecin. Il rencontre l'oncle du roi de Prusse, le margrave de Brandebourg, un noble et chef militaire, souverain de Brandebourg, et devant lequel il a la chance de se produire. Ce margrave est également oncle du roi de Prusse. Mélomane et musicien lui-même, il est évidemment séduit par le talent de Bach et lui passe une commande. Et voici comment sont nés et comment sont advenus les concertos brandebourgeois. On ne refuse rien à margrave, donc Bach il dit oui, mais en plus il est payé, quoi. Hein, c'est une belle commande. Les six concertos, parce qu'il y a six concertos dans les concertos brandebourgeois, sont d'une diversité étonnante, tant du point de vue de la structure que de l'appareil instrumental, des instruments qu'on entend. Et il n'est pas improbable que la motivation, une motivation de Bach, c'était de présenter son art du concerto à travers l'écriture et puis de mettre en lumière son art et sa façon de faire et d'être et d'écrire aux yeux et aux oreilles du margrave, bien sûr. Est-ce que c'est une opération de com'? Peut-être une pub, regardez ce que je peux faire, écoutez ce que j'allais savoir. Les instruments retenus respectent sans doute ceux dont le margrave pouvait disposer à travers les musiciens qu'il employait, c'est-à-dire qu'il pouvait les faire jouer chez lui. Pourquoi avoir choisi ce concerto en particulier, Pierre ?
Pour moi, ce type de musique de Bach, avec ce contrepoint, c'est très rock'n'roll, c'est-à-dire c'est plein d'énergie. C'est une des caractéristiques de la musique baroque, c'est vraiment un flux d'énergie continu. Hein. On a ce qu'on appelle un continuum rythmique qui peut vraiment faire penser à des musiques actuelles. Donc voilà, c'est une énergie qui est sans arrêt présente. Et c'est également une musique, en tout cas en ce qui concerne Bach, qui allie à la fois une forme d'austérité dans l'architecture et en même temps une grande forme d'expression. Donc c'est la force de Bach, c'est mêlé à la fois, si dans l'analyse de ces partitions, elles sont extrêmement complexes, mais compréhensibles, et elles sont extrêmement expressives.
Alors Bach, pour moi, c'est une histoire que je vais raconter, je vais me livrer un peu, tiens, si vous permettez bien.
Bien sûr.
J'avais une trentaine d'années, j'étais dans l'éducation nationale, et un collègue me dit, quel est ton compositeur préféré ? Alors au départ, je jouais un peu de piano, je lui réponds directement Chopin. Il me dit, oui, t'as 30 ans, c'est normal. Quand tu auras 40, 50 ans, ça sera Mozart que tu répondras, et après tu diras Bach. Alors j'ai un peu plus de 50 ans, mais il avait complètement raison, vraiment. Bach, c'est le taulier, quoi, hein, pour prendre une expression rock'n'roll. Et j'ai parlé de Mozart parce que votre influence classique, une autre période de la musique qui succède à l'époque baroque, c'est ça ?
Tout à fait.
Eh bien, c'est justement du Mozart. Et c'est un quintette pour clarinette, c'est-à-dire un quatuor à cordes, c'est ça ?
Oui.
Et la clarinette de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est le quintette en Fa majeur, K, que Schell, c'est la manière de classer les œuvres de Mozart, K581. On écoute tout de suite, et vous nous en parlez après, le quintette avec clarinette de Mozart. Le quintette. Quintette, ça veut dire donc 5, et avec une clarinette, c'est-à-dire un instrument relativement récent à l'époque de Mozart, inventé moins d'un siècle auparavant par Johann Christoph Danner. Et Mozart semble découvrir cet instrument en écrivant un premier morceau pour lui, un divertimento pour clarinette. Et puis il l'emploiera à de nombreuses reprises dans des œuvres symphoniques, dont le fameux concerto pour clarinette, mais aussi dans la musique de chambre. Le quintette inaugure le répertoire pour clarinette et quatuor à cordes, et puis ça a ouvert la voie à d'autres compositeurs, dont von Weber et Brahms. La pièce a été dédiée à Anton Stadler, un clarinettiste et ami de Mozart, d'où le second nom, le second titre pour cette pièce, le quintette Stadler. L'œuvre a été créée avec Stadler à la clarinette et avec Mozart à l'alto. Je l'ai dit tout à l'heure, il fut un temps à Vienne pendant lequel le succès de Mozart était en berne. Pourquoi ? Parce que on n'a pas toujours l'aisance et on n'a pas toujours le vent en poupe. Hein. Il a perdu un enfant, il est en proie à des difficultés financières. Cependant, pour écrire ce quintet, malgré tout, il choisit une tonalité lumineuse, celle de La majeure, sans doute pour exprimer une gravité, une profondeur malgré tout traversée par des éclats de joie comme des sourires au milieu de torrents de larmes. Plusieurs mouvements dans ce quintet, allegro, larghetto, menuetto, trio entre deux, et puis allegretto con variazioni. Ça veut dire qu'un concerto, c'est écrit en plusieurs mouvements, c'est ça ?
La plupart du temps, ça va être la même construction que des œuvres symphoniques ou des concertos. Ça va être en 3 ou 4 mouvements. Là, la majorité des œuvres, effectivement, sont en 4 mouvements, avec les mouvements extrêmes, qui seront ce qu'on appelle les mouvements allegro, des mouvements vifs dans le tempo, plein d'énergie.
On continue dans l'histoire de la musique ?
Avec plaisir.
Allez, une influence funk, parce qu'on ne s'arrête pas à la musique dite classique sérieuse, et c'est très bien, je trouve, de dépasser les frontières. Caméléon, si je prends la prononciation française, de Maceo Parker, qu'est-ce que c'est ça ?
Alors c'est un groupe de funk que j'ai eu le plaisir d'écouter à Clermont-Ferrand, il y a de ça une vingtaine d'années. Donc le funk, c'est vraiment une musique qui est basée mais sur une forme d'énergie et de répétition, et en particulier Caméléon, on va entendre un sous-bassophone, c'est le grand frère. Un sous-bassophone.
Oh, j'aime beaucoup le nom.
C'est dans la famille des tubas, c'est le grand frère de mon instrument, de la pichotte.
On reste dans les cuivres,
voilà.
C'est le pichotte majuscule ou la pichotte majuscule.
C'est la grosse pichotte, on pourrait dire comme ça. Et c'est un tuba de défilé, en fait. C'est le tuba qui s'enroule autour du musicien pour plus de commodité, pour pouvoir défiler. Et donc cet instrument, il est utilisé dans cette pièce qui est jouée par Maceo Parker et son ensemble.
Et pourquoi ça vous plaît ? Qu'est-ce qui vous plaît ?
Alors moi, c'est lié un petit peu à mon histoire. Grâce à cette musique, j'ai eu mon baccalauréat. J'étais très défaillant au lycée et j'ai décidé, allez, un mois avant le bac, de m'y mettre quand même, de réviser, de m'enfermer, de réviser. Et c'est
Il n'est jamais trop tard.
Mais bien sûr. Et c'est grâce à cette musique que j'ai écouté vraiment en boucle, pas qu'elle, heureusement, bien entendu, mais au moins 2 fois chaque jour, que j'ai trouvé l'énergie pour réviser et pour avoir une réussite à ce baccalauréat.
Et alors, finalement, vous l'avez eu ?
J'ai eu mon baccalauréat.
Bravo. Je crois que vous n'êtes pas le seul hein, dans ce cas-là à avoir dit tiens, il faut s'y mettre. C'est, je crois que c'est arrivé à d'autres. Et
je crois,
à qui
oui.
Vous parlez aussi en ce moment. Alors, c'est un standard de jazz que nous devons à Herbie Hancock, c'est ça au départ. Hein. C'est un célèbre compositeur, pianiste et claviériste américain. Et pour l'essentiel, c'est entièrement construit sur un ostinato à deux accords, accord 1 et accord 4, en si bémol. C'est un mode dorien, c'est-à-dire si bémol. Mineur septième et mi bémol septième. Tout ça, c'est des mots techniques, mais ça vous parle à vous. En tout cas, ostinato, ça veut dire quelque chose qui revient obstinément, sans arrêt, en boucle, en loop, looping, comme on dirait maintenant. La mélodie est basée sur une gamme blues, c'est-à-dire qu'on a la note bleue, le si bémol, par exemple, dans certaines tonalités. Et la composition compte une ligne de basse qui suit un rythme funk. On a vraiment la rencontre entre plusieurs courants dans cette œuvre, et c'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle Caméléon, parce que finalement elle est posée sur un style, elle en prend quelques caractéristiques, elle prend d'autres styles, etc., etc. Et puis il y a des mouvements chromatiques qui permettent à la ligne de basse d'arriver à la fondamentale de chaque accord, parce que qu'il faut quand même prendre des repères qui parlent à tout le monde et pas trop, surtout à l'époque, s'écarter de la tradition jazzy, tiens, je vais dire, avant de prendre beaucoup de liberté. On écoute, Pierre ?
Avec plaisir.
Alors voici Caméléon, la version de Maceo Parker. Alors, Maceo Parker, c'est un saxophoniste et compositeur de funk et de soul jazz afro-américain. Tiens, je vais le qualifier comme ça. Il a vu le jour dans une famille de musiciens. Et puis un jour, James Brown, recherche un batteur pour son groupe. Et il auditionne le frère de Maceo, c'est Melvin. Et puis James Brown est séduit par la qualité technique et musicale de Melvin. Mais oui, il entend aussi Maceo et il l'engage. Et les deux joueront avec James Brown. Sympa le frangin, parce que le batteur, il avait un peu poussé James Brown à dire, allez, prends aussi mon frangin, quoi. C'est bien, non ?
C'est une belle histoire.
Vous avez quelqu'un de votre famille qui est instrumentiste ?
J'ai un frère jumeau, Rémi, qui est Rémi.
Ah, Rémi.
Ça tombe bien, c'est un musicien. Alors, ce n'est pas son métier.
Ça s'écrit Rémi, ou Rémi ?
Avec un I. L'orthographe avec un I, voilà. Et il est clarinettiste, mais ce n'est pas son métier, mais il pratique encore la clarinette dans différents ensembles amateurs de la Haute-Vienne.
Et vous jouez ensemble parfois, ça vous arrive ?
Quand on se retrouve dans des ensembles communs, on va jouer ensemble, voilà.
Ouais. Mais en famille, je veux dire, non, comme ça ?
Et ça peut arriver, pour rigoler, ouais, ça peut arriver, bien sûr.
Et ça sert aussi à ça, la musique à rigoler.
Ben voilà.
On reste dans le jazz, et on continue dans le jazz avec My Favorite Things, on en parlait tout à l'heure, mais c'est John Coltrane qu'on va écouter, c'est ça ?
Oui.
Un passage remasterisé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire amélioré techniquement ?
Je crois que oui, le son a été retraité de manière informatique pour faire ressortir des éléments assez importants de cette musique.
Alors c'est un album studio, comme on les appelle, de John Coltrane, et c'est aussi le titre phare de l'album dans lequel il va être gravé. Et c'est le premier album à présenter Coltrane qui joue du saxophone soprano. Ah, ça veut dire qu'il existe plusieurs sortes de saxophones alors ?
Eh bien, c'est comme pour les voix, on a la voix soprane, on a le saxophone soprano, forcément plus aigu que le saxophone alto, lui-même plus aigu que le saxophone ténor, qui correspond à la voix masculine ténor, et un peu plus grave, on a le saxophone baryton, et plus rare, on a le saxophone basse, voire le saxophone contrebasse.
Ouais, alors lui, il a joué avec une autre pointure, il a joué avec Miles Davis, hein, ce Coltrane, et puis l'enregistrement de cette œuvre a été un très grand succès, et c'est devenu celle de Coltrane qui est la plus recherchée et la plus jouée de par le monde. L'album, quant à lui, a reçu le Grammy Award, le Grammy Hall of Fame Award, pardon. Il a été certifié disque d'or après avoir été vendu, excusez du peu, à 500 000 exemplaires et plus. Alors on écoute un petit peu, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute My Favorite Things, ce sont vos choses favorites? Alors c'est parti. Petit doigt m'a dit Pierre,
oui,
que vous avez aussi une parenté, tiens, avec la musique de Maurice Ravel, avec Ma Mère Loi, parce que ça vous a influencé, ça.
Oui, c'est comme la musique de Mozart, en fait, c'est ce qu'on appelle Ravel de la musique néoclassique. Mozart, c'est la musique classique, et ça se caractérise par une musique extrêmement lumineuse, mais aussi extrêmement, extrêmement claire. Donc on trouve comme chez Mozart cette belle lumière, puis ce découpage, cette clarté vraiment dans le discours musical. Mais chez Ravel, on va avoir des accords très très riches, des assemblages de notes assez originaux, hein, qui vont d'ailleurs influencer le jazz beaucoup, beaucoup plus tard.
Alors Ma Mère Loi, qu'est-ce que c'est que Ma Mère Loi? C'est un recueil, on va dire, de plusieurs œuvres. Est-ce que vous allez nous faire écouter, c'est Le Jardin Féerique?
Tout à fait.
Un bon titre, non?
C'est le dernier. Rêver. C'est le dernier, voilà, ça fait rêver.
Ma Mère Loi, ça s'écrit O-Y-E, c'est-à-dire que c'est pas loi le volatile, c'est loi l'animal à quatre pattes. Hein. C'est la brebis qui couve ses petits, parce que Ravel a écrit ça à l'intention d'enfants de ses amis. Et il pensait qu'il pourrait le jouer. Il y a une version pour piano et qui a été conçue pour être exécutée par des jeunes mains. Et puis, il y a une version pour quatre mains. Piano à quatre mains, que j'ai eu le plaisir d'entendre il y a déjà quelques années, interprété par deux magnifiques pianistes, Agnès et Sylvie. La première audition a eu lieu à Londres. Elle a été très très suivie, elle a été très courue, parce que c'était le festival de ce qu'on appelle encore aujourd'hui les Proms. Et chaque année, il y a les Proms qui remportent un grand succès en public, en présentiel, mais aussi dans la diffusion télévisuelle dans le monde entier. Dans l'œuvre symphonique en question, Ravel utilise un orchestre assez réduit. Les pupitres de bois et de corps sont par deux, et puis il n'y a pas de trompette, ni trombone, ni tuba, sans tambour ni trompette. Pierre, vous voilà privé, non? Parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'harmonie dans ce que vous allez nous faire entendre là.
Il y a un instrument magique quand même qui s'appelle le Celesta, qui est un petit piano qui a des sons extrêmement, extrêmement cristallins. Il y a aussi la harpe, hein, vraiment des instruments de la poésie sonore qui vont amener vraiment des étincelles de notes, des petites notes très très lumineuses.
Vous savez qu'il y a d'autres personnes que vous, évidemment, et que moi, qui apprécient cette œuvre. Voici le message d'un auditeur, voilà ce qu'il nous dit. J'ai passé mon enfance dans un jardin féerique. Je ne le savais pas encore, mais c'était la musique de fond qui accompagnait mes jeux. Merci, monsieur Ravel. Merci du plus profond de mon cœur. Pierre Souris, votre jardin féerique, il existe? Il est comment? Peut-être qu'il est comme celui que nous allons entendre maintenant, celui de Ravel. Allez savoir. Le jardin féerique, Ma Mère Loi, Ravel. Thank you. On entend effectivement, j'y faisais allusion tout à l'heure, Pierre, une forme d'intimité orchestrale que Ravel a choisi, hein. Et c'est presque chambriste, c'est presque la musique de chambre finalement, et ça favorise les parties solistes ou les subtils mélanges de timbres. Le tout confine pour moi une atmosphère particulière et envoûtante. On a vraiment le conte, la magie du conte qui opère immédiatement et qui vient à l'esprit. Les contes d'enfance, et on peut retrouver aussi cette magie dans Le Carnaval des animaux, par exemple, ou de Saint-Saëns, ou dans Pierre et le loup, de Prokofiev. Alors, on va regarder juste après le jingle si on a un vainqueur au jeu du jour. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Pierre, la question c'était dans quel département opère et réside Pierre Souris, notre invité du jour. Je vous laisse donner la réponse,
c'est donc le 87, la Haute-Vienne.
La Haute-Vienne avec la préfecture qui est
Limoges.
Et la ville la plus importante musicalement, c'est Panazol avec son CRC, évidemment.
Tout à fait.
Bien sûr. Et puis Solignac.
Avec sa chorale, la balade.
Et Limoges avec...
son harmonie municipale.
Et puis le département, finalement.
Avec son orchestre départemental.
Voilà. Alors, je crois qu'on a un vainqueur, et je vous laisse, Pierre, donner le prénom, et puis peut-être la ville dans laquelle réside cette personne.
Il s'agit de Jacques, qui habite à Étagnac.
Alors, les choses sont bien faites, parce que Étagnac, c'est exactement la frontière entre la Charente et la Haute-Vienne. Bravo Jacques, c'est vous qui avez gagné, donc, tous les moments de pratique instrumentale ou vocale que j'ai décrit tout à l'heure avec... Pierre, et puis des invitations VIP à des concerts, des ensembles vocaux ou instrumentaux qu'il dirige. Pierre, revenons s'il vous plaît à vos influences, et on va encore parler d'une influence que vous qualifiez d'actuelle, c'est-à-dire 20e et 21e siècle, c'est ça, avec Steve Reich que vous avez cité tout à l'heure, et avec un extrait de...
d'une pièce pour orchestre qu'il a écrite dans les années 80 qui s'appelle The Four Section, qui est en quatre mouvements et qui découpe l'orchestre en quatre mouvements également.
Donc Four Sections, hein, c'est quatre mouvements, voilà. D'accord, c'est la traduction, quatre mouvements et quatre parties dans l'orchestre.
Dans l'orchestre, voilà. Voilà.
Et quelle partie vous nous faites écouter?
Alors c'est le dernier mouvement, c'est le mouvement final, voilà, le mouvement le plus rapide de cette pièce, de cette œuvre.
C'est Full Orchestra, je crois, le titre de...
Oui, l'orchestre complet.
C'est-à-dire pour tout le monde.
C'est ça.
D'accord. Allez, ben on va finir avec tout le monde alors.
Avec plaisir.
C'est le dernier extrait que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin, de Steve Reich, influence actuelle de Pierre Souris, Four Sections, le quatrième mouvement, Full Orchestra. Il y a un chef pour diriger ça.
Oui, il en faut absolument pour ce type de musique.
Chef d'orchestre ou chef de chœur. Alors, là encore, je vais vous provoquer, tiens, Pierre. Mm-hmm. Les mauvaises langues disent que c'est le refuge des mauvais instrumentistes ou des mauvais chanteurs. Mais c'est une blague, non?
Sans doute.
Ah, la réponse n'est pas aussi tranchée que je l'attendais. En tout cas, le chef d'orchestre ou le chef de chœur, est-ce que ça a toujours existé? Si on remonte à l'Antiquité, il y avait des chœurs qui étaient guidés par un chanteur qui indiquait avec ses mains l'interprétation de la mélodie qu'il fallait obtenir. Et puis ensuite, on a eu des instrumentistes qui dirigeaient avec leur instrument, avec l'archer par exemple. Puis l'archer a été transformé en bâton, tapé. Jean-Baptiste Lully a évidemment usé de ce bâton, et à tel point qu'il en est mort, hein, puisqu'il a été blessé au pied à cause d'un coup de canne qu'il s'était lui-même administré. Et puis au fur et à mesure... Le chef d'orchestre, je veux dire, s'affine en même temps que les instruments augmentent dans l'orchestre, en même temps que la musique devient plus, technique, tiens. Et puis, on passe de celui qui fait jouer l'orchestre ensemble à celui qui transmet, vous le disiez tout à l'heure, sa vision de la forme de l'œuvre qu'il est en train de diriger. Et Bernstein a été notamment un de ceux qui ont expliqué tout ça, mais les premiers qui ont emprunté cette voie, c'était von Weber et Mendelssohn, c'est-à-dire de coordinateurs d'orchestre d'instruments, ils deviennent interprètes et ils jouent d'un instrument ou d'une chorale. Et c'est, je trouve, magnifique. Et pour avoir vu Pierre Souris diriger, je peux vous dire qu'on entend la manière dont il attend que les choristes ou les instrumentistes jouent. Et quand j'ai vu d'autres chefs d'orchestre, Mouti, tiens, par exemple, que j'ai vu diriger une répétition de Carmina Burana au Théâtre des Champs-Élysées avec l'orchestre et les chanteurs de Radio France. Quand j'ai pu travailler avec Sophie Janin, c'est la chef de chœur actuelle de la maîtrise de Radio France, quand on les voit travailler, quand on travaille avec eux, ce sont des moments inoubliables. Et puis, aujourd'hui, auditrice, auditeur, échanger avec Pierre Souris pour faire de la musique, et je crois que ça procure également beaucoup de plaisir, vous l'avez entendu et vous l'avez vu, si je peux dire, vu avec vos oreilles, mais le temps passe et l'heure tourne, et quant à moi, Pierre, je reprendrai bien une petite goutte de saxhorn ou de pichotte. Vous aussi, non? Vous nous en donnez une petite goutte et je suis sûr que les auditrices et les auditeurs seront d'accord. Allez, encore un petit peu de saxhorn, encore un petit peu de pichotte. Pierre Souris. Merci Pierre et encore bravo pour ces deux interprétations, des exclusivités sur RDC 93.4 et 92.5. Je voulais quand même vous dire, Pierre, que sur le chemin du retour, vous allez passer par Étagnac, pour saluer Jacques, mais vous allez aussi, un petit peu avant, passer par La Rochefoucauld. Et La Rochefoucauld, je pense que vous pouvez, si vous avez le temps, faire une étape, pour y demander une pichotte. Je ne suis pas sûr qu'on vous donne un instrument de musique à La Rochefoucauld. On vous offrira plutôt un délicieux chocolat, une pichotte. Les habitants de La Rochefoucauld sont des rupificaldiens, mais on les appelle aussi les pichotiers. D'où vient le nom de ce chocolat, de cette pichotte rupificaldienne? Je crois que rien n'est sûr et que les recherches continuent sur le sujet. Ce dont je suis sûr, c'est que cette pichotte est un délice. Pierre, vous nous direz si vous êtes d'accord après l'avoir goûtée, après être passé d'une pichotte à l'autre. Et c'est important, vous nous direz si vous avez le temps de l'avoir goûtée. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Auditrices, auditeurs, voilà, l'heure de conclure est arrivée. C'est déjà la fin de l'émission Donnez-nous vos notes, diffusée aujourd'hui, jeudi 26 septembre 2024 sur RDC 93.4 et 92.5 avec Pierre Souris comme invité. Pierre nous a conté son parcours, à n'en pas douter, il s'agit d'un beau parcours et nul doute encore qu'il connaisse de superbes épisodes. Pierre, quel beau voyage vous venez nous offrir, humainement comme musicalement. Vous recevoir ce matin du 26 septembre 2024 a été une grande joie. Je n'ai pas boudé mon plaisir, je ne doute pas qu'il en a été de même pour les auditrices et les auditeurs. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, dès que vous en aurez l'occasion, à aller écouter et voir Pierre diriger l'un des ensembles qu'il dirige, la balade ou l'un des deux orchestres, l'orchestre d'harmonie de Limoges, c'est ça, oui. Et l'orchestre départemental de Haute-Vienne. Pierre, merci beaucoup de votre passage dans les studios de RDC en tant qu'invité de Donnez-nous vos notes, que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer. J'ai vraiment beaucoup apprécié les notes que vous nous avez données. J'espère qu'il en a été de même pour les auditrices et auditeurs, toujours plus nombreuses et nombreux à suivre l'émission, à apprécier le parcours de chaque artiste qui sait donner ses notes. Alors Pierre, s'il vous plaît, continuez à nous donner vos notes, à nous régaler de vos notes, continuez à œuvrer de mille manières pour la musique, ici, là, ailleurs, partout, en Haute-Vienne et au-delà. Pierre, croiser votre chemin sera toujours un plaisir. Auditrices, auditeurs, je vous remercie de tous les messages que vous envoyez pour dire votre satisfaction à l'écoute de Donnez-nous vos notes. Et puis, je vous remercie sincèrement de votre fidèle écoute, évidemment. Merci à celles et ceux qui ont joué aujourd'hui. Encore bravo à Jacques d'Étagnac, qui a gagné tous les cadeaux dont nous avons parlé ensemble et une invitation à une prochaine émission de l'émission. Jean-Claude devait être avec nous aujourd'hui. Jean-Claude, c'était le gagnant d'une précédente émission. Et puis je le salue parce qu'il a téléphoné il y a quelques jours pour dire que finalement il avait un empêchement. Ce n'est que partie remise. Pierre, dans la continuité des invités qui ont déjà donné leurs notes sur cette antenne et dans cette émission, vous avez magnifiquement parlé de votre parcours musical et artistique avec les anecdotes, les exemples, les épisodes qui s'y rattachent, avec les moments de votre vie personnelle parfois qui sont liés. Alors à vous, merci encore et bravo.
Merci beaucoup pour cette invitation.
Rappelez-vous, Pierre, que rien n'empêche dans quelques temps une deuxième visite, un deuxième passage dans l'émission Donnez-nous vos notes sur RDC, évidemment. Nous vous retrouverons avec grand plaisir, soyez-en persuadés. Un mot pour remercier Jean-Marc, toujours expert dans l'apport de son savoir-faire technique au bénéfice de la meilleure écoute des auditrices et des auditeurs, et pour le plus parfait accompagnement de l'animateur, que j'ai le plaisir d'être. Auditrice, auditeur, au revoir et à bientôt, je l'espère. Le 24 octobre prochain, même lieu, même heure, c'est Jean-Noël Godard qui sera l'invité de Donner Nouveau Note sur les ondes de RDC. Autre parcours, autre histoire aussi, mais qui permettront à Jean-Noël Godard de nous donner ses notes. Autre parcours, autre histoire, certes, mais toujours la même passion, celle de la musique, celle du partage, celle de la rencontre, celle de l'échange. Auditrice, auditeur, aujourd'hui nous avons eu le plaisir de recevoir un musicien, un instrumentiste, un pédagogue, un compositeur, un arrangeur, un chef de chœur, un chef d'orchestre, mais en fait, un seul invité au final. Un seul invité, oui, car recevoir le talentueux Pierre Souris, c'est recevoir quelqu'un qui incarne et assume à lui seul toutes ses fonctions. Pierre Souris, au revoir et à bientôt peut-être, ou plutôt non, au revoir et à bientôt sans doute, à bientôt sûrement.
À très bientôt, avec plaisir.
Dans l'attente, n'oubliez pas de nous faire encore et toujours voyager grâce à la musique, grâce aux notes que vous nous donnez, que dis-je, que vous nous offrez. Jean-Marc, au revoir et à très vite. Toujours avec plaisir, et merci de tout faire pour que le podcast de l'émission de ce jour soit rapidement accessible, peut-être dès demain, alors là, dans le début de semaine prochaine, peut-être. Jean-Marc, tu peux lancer le générique, car pour aujourd'hui, tu sais quoi ? Eh bien, sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5, donnez une voix note, c'est fini. Donnez une voix note, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. C'était « Donnez-nous vos notes », une note, des notes. « Donnez-nous des notes », des notes, des bonnes notes. « Donnez-nous des bonnes notes », rien que des bonnes notes. « Donnez-nous vos notes ». Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magicien des sons, magicienne des sons, magicienne des mots, magicien des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée, et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes ? Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission, et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de Donnez-nous vos notes. À bientôt, pour moi ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt pour une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Voilà, c'est la fin.